RCF. Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur quand c'était la guerre. Alors aujourd'hui on va partir à la rencontre de Suzy Draps. Elle est née juste avant la guerre, hein. On est en avril 1939. Évidemment ce qu'elle va nous raconter c'est vraiment des petits souvenirs d'enfance et surtout ce que sa famille a pu raconter aussi. Hein. Vous savez, évidemment, quand on vit ce genre d'événement, bien entendu, on a toute la famille qui va raconter par la suite des histoires. Hein. Donc, c'est quand même des souvenirs assez précis, des histoires assez précises. Alors, elle, où est-ce qu'elle habitait au moment de la guerre? Eh bien, elle habitait rue Balthazar Florence, donc c'est à Salsine. Et donc, on va voir toutes ces histoires de jeunes habitantes à Salsine. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, pendant tous ces mois d'été, tout juillet, août, je vais encore vous accompagner avec des témoignages de Namur quand c'était la guerre. Pourquoi? Ben simplement parce qu'on a eu plus de personnes qui voulaient témoigner que ce qu'on espérait. Évidemment, on est très très content de cela. Et je veux dire, on n'allait pas garder ces témoignages pour nous. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous les partage pendant ces 2 mois d'été. Merci d'ailleurs à RCF de diffuser ces émissions pendant l'été. Normalement, on sait que c'est surtout des rediffusions qui sont passées dans la plupart des stations radio d'ailleurs. Hein. On les remercie donc et je vous laisse en compagnie de...
Bon, ma famille est bruxelloise. Je suis la seule namuroise du côté paternel et maternel. Et j'en suis très fière. mes parents sont venus habiter à Namur en 1937. Parce que mon papa était parqueteur. Et il est venu travailler pour la parqueterie Stas, derrière la gare. En 1939, il était mobilisé. Donc moi, je suis née à la maison, avec Mademoiselle Godefroy, qui était sage-femme. Et mon papa a été mobilisé fin 1939, avec l'école de pilotage de Nivelles. Mais il était rampant. Hein. Alors, maman est retournée avec mon frère et moi bébé chez sa famille à Bruxelles. Et ils ont appris que mon papa partait pour la Bretagne avec l'école de pilotage de Nivelles. Donc, on a mis tout le monde dans une voiture et on a essayé de le suivre. Ça, c'est ce que maman m'a raconté. Et ils l'ont suivi jusqu'à Quimper. Et quand ils sont arrivés à Quimper, ils ont appris qu'ils avaient embarqué sur un bateau pour le Maroc. Et papa est resté à Oujda, je ne sais pas combien de temps. Et puis, ils sont revenus à Marseille. Et de Marseille, on les a mis dans un train qui est allé directement en Allemagne. Il était prisonnier en Allemagne. Mais il a fait la malaria qu'il avait contracté au Maroc. Et on l'a renvoyé dans ses pénates. Donc mon papa est revenu, je crois que c'était en 41 ou 42. Mais bon, moi, ce que maman me racontait, c'est qu'elle est retournée à Bruxelles avec ses deux enfants en dessous du bras. Et elle me montrait des photos de papa en militaire. Et elle me disait, papa, papa... Et alors, quand on allait faire des courses, elle prenait le tram avec moi sur les bras, et je voyais des militaires allemands dans le tram, et je criais « Papa, papa !» Maman était très, très embêtée. Donc, papa est revenu en 42, je crois, et on est rentré à Namur. Mais à Namur, la parqueterie Stas, ils étaient originaires de Boisvillers. Et ils sont revenus à Boisvillers. Ils ont, nous ont demandé d'aller habiter chez eux. C'était rue des Limois. Et la parqueterie donnait à la rue Florent de Thiers. Et pour garder la parqueterie et la maison, on est parti habiter là-bas. Moi, j'ai trouvé ça très gai, parce que c'était une immense maison. Il y avait un jardin. Et au-dessus du houillou, il y avait le houillou qui passait dans le jardin, il y avait un petit pont. Et puis, il y avait la parqueterie. Et avec mon frère, on jouait dans la parqueterie. On s'est d'ailleurs fait ramasser. Et on jouait dans le houillou avec nos voisins. C'était Franz et Marcel Cajot, je m'en rappelle. Et voilà, c'est une partie... J'adorais cette maison parce que c'était ancien. Il y avait un garde-manger, comme il y avait dans le temps. C'était une armoire à confiture. Et j'ai encore cette odeur de confiture de Reine Claude quand on ouvrait cette armoire. Ça m'est resté dans le nez. Papa a surveillé, mais il ne travaillait pas. Et il y a eu le bombardement à la gare. Et je sais bien que papa et des hommes du quartier sont partis à la gare parce qu'il y avait un train de marchandises avec de la nourriture pour les Allemands. Et ils ont pillé le train et ils sont revenus avec des seaux, des bassines en galvanisé. Et dedans, il y avait du sucre, du riz, de la farine. Voilà, moi, c'est ce que je me rappelle du bombardement. Mais mes parents ne m'ont jamais envoyé, enfin, ne m'ont jamais amené à aller voir les dégâts qu'il y avait à Namur. Donc, moi, c'est passé comme ça. Et puis, on revenait avec maman à la maison à Salzine de temps en temps pour voir si tout allait bien. Et ce que je me rappelle, c'est qu'on remontait à l'avenue Cardinal Mercier et il y avait des soldats allemands assis contre les façades. Et maman me disait, regarde devant toi. Et on passait. J'avais plus peur de maman qui me disait, regarde devant toi, que des soldats allemands qui étaient assis là.
Il était dans les assurances, de ce fait, il n'en manquait pas. Elle était vendeuse chez Hortense, elle aimait bien son vieux papa. Chaque jour, le hasard malin les faisait se croiser en chemin. Entre 11h et midi, dans la rue Lafayette, il voyait la fillette, la trouvant gentillette. Entre 11h et midi, de son côté la belle, qui s'appelait Isabelle, pensait oh qu'il est gentil. Il était fatal dans ces conditions, il risque un petit brin de conversation. Entre 11h et midi, sonne l'heure de la chance, pour deux cœurs en vacances, juste entre 11h et midi. Tout doucement, ils prirent l'habitude de se voir ainsi chaque jour. Et cela devint le prélude d'un gentil petit roman d'amour. Dans le quartier, même les agents redonnaient d'un petit air indulgent. Entre 11h et midi, voilà l'amour qui passe, devant lui tout s'efface. Allez, circulez, faites place. Entre 11h et midi, chacun dans un sourire, doucement semblait dire, aimez-vous donc mes amis. Et le jour du mariage, le curé gaiement, en guise de cantique, leur dit simplement, entre 11h et midi, pour vos cœurs qui se donnent, là-haut les cloches sonnent, juste entre 11h et midi. Tout cela peut sembler bébête, une histoire, et puis voilà tout. Tant de bruit pour une amourette, c'est bien trop vraiment, dites-vous. Et pourtant, pensez qu'à votre tour, cela peut vous arriver un jour. Entre 11h et midi, l'amour sans cri égare de votre cœur s'empare. Cela semble bizarre. Entre 11h et midi, pour deux mots qu'on échange, pour vous soudain tout change, juste entre 11h et midi. N'essayez donc pas de lui résister, s'il vient gentiment vous solliciter. Entre 11h et midi, c'est ici votre chance, prenez-le sans méfiance, juste entre 11h et midi.
Et le pôle de la libération avait sauté, et ça on l'avait appris à maman quand elle était en Bretagne. Ils se sont arrêtés à une commandature parce que maman n'avait plus de lait pour mes biberons. Et ils sont allés demander. Maman a reçu tout ce qu'elle voulait. Et elle a demandé s'ils n'avaient pas des nouvelles de Belgique. Et on lui a annoncé que le pont de la Libération avait sauté. Donc, quand on est revenu, maman savait, mais qu'il n'y avait pas eu de gros dégâts des fenêtres. Qu'il y avait... Bon, et... Ce que je me rappelle, c'est qu'on traversait avec le bac, comme on disait. C'était une grande barque verte, et il y avait un passeur. Et quand on venait, nous, de derrière la gare et qu'on allait à Salzine, on passait par le bac. Et puis après, il y a eu une passerelle sur le côté du pont. Et donc, voilà, quand je ne sais jamais situer... Le moment où on est revenu à Salzine. Parce que je me rappelle que le voisin était venu dire à maman, venez, les Américains arrivent. Et on est parti par le boulevard du Nord et il y avait le pont de vie. Voilà. Quand on est arrivé là, on a entendu des balles qui ricochaient. Moi, ça m'a frappé, étant gauche. Et M. Decoeur, le voisin, a dit, il faut retourner tout de suite. Et une dame du boulevard du Don nous a dit, entrez chez moi. Et à part après, je me suis rendu compte que c'était les combats dans le parc. Les derniers combats qu'il y a eu. Mais quand les Américains sont vraiment venus, on était à Salzine.
Donc au départ, vous étiez à Salzine.
Oui, puis on était à Bruxelles.
Oui.
Jusqu'à ce que papa revienne.
Puis en Bretagne.
Ah oui, en Bretagne, ça, on est parti voilà. Tout de suite derrière papa.
Puis retour à Bruxelles.
Retour à Bruxelles.
Puis retour à Salzine.
Quand papa est revenu d'Allemagne, les Istas sont revenus dans leur famille à Boisdevillers. Et nous, on est allés garder la parquetterie et leur maison à la rue des Limois et à la rue Florent de Thiers.
Et puis après, vous êtes retourné à Salzine.
Oui.
D'accord.
Et quand on était à la rue Florent de Thiers, ils avaient des caves voûtées. Et les voisins venaient à l'abri dans les caves chez nous. Bon, les avions me faisaient peur. Quand on était à Salzine, on était en face des Bas-Prés, et j'entendais un bourdonnement, et je réveillais mes parents, je disais, ils sont là, avant la sirène des Bas-Prés. Ça, c'est la seule peur que j'ai vraiment eue pendant la guerre. Et je filais à la cave comme une fusée. Et je sais pas pourquoi. Sinon, bon, on n'allait pas à l'école. J'étais à l'école gardienne. Mais on n'allait pas à l'école. On jouait. On avait des voisins. Il y avait 4 enfants. Nos voisins, c'était le monsieur dont Janine Billa parle, qui était professeur de langue germanique. C'était un monsieur formidable. Il prenait les enfants l'après-midi, quand il faisait beau. On prenait notre tartine et on allait à la gueule du loup. Et il nous apprenait toutes les feuilles des arbres et tout ça. Il avait toute une ribambelle de gosses derrière lui. Ce sont de bons souvenirs. Et puis, donc, on était à Namur. Il y a eu l'offensive Van Hollstedt. À ce moment-là, on a dit, il faut faire attention. Et papa et le voisin ont creusé un trou entre les deux caves, en disant comme ça, si ça tombe... Donc on a descendu les lits pour qu'on dorme à la cave. Mais bon, il y avait mon frère, Et moi, ça faisait... Et il y avait les quatre enfants, on s'amusait comme des fous le soir. On courait dans les cartes des deux maisons, et voilà. Et puis, les Américains sont arrivés chez les frères franciscains à la rue Jupin. Et je ne sais pas, c'était une unité qui était là. Et tous les gosses, on allait. Et je ne sais pas pourquoi. On recevait des chewing-gums, du chocolat. Et le capitaine est venu me chercher. Il m'a pris dans ses bras. Et il m'a demandé, comme j'ai pu comprendre, pas, sûrement papa, maman, puisque je ne parlais pas du tout anglais. Donc, et j'ai expliqué où j'habitais. Et il m'a fait monter dans sa Jeep. Et il est monté avec moi derrière. Et il avait un chauffeur. Et le chauffeur nous avait fait un tour dans sa usine. J'étais fière comme un retaban. Et ils se sont arrêtés chez nous. Et mes parents ont fait rentrer John, il s'appelait John, et il a expliqué comme il pouvait à mes parents qu'il avait une petite fille de mon âge et que je lui ressemblais. Donc il m'a pris en amitié et je pouvais aller et je pouvais entrer dans la salle où les soldats dormaient et tout ça. Et son chauffeur aussi m'a pris sous son aile. Et puis ils sont partis dans les Ardennes. Et je lui avais donné une petite broche avec deux sabots. Et quand ils sont revenus, ils sont repassés par chez les pères franciscains. J'ai vu le chauffeur, j'ai couru tout de suite, j'ai vu le chauffeur. Et il m'a annoncé que John ne reviendrait plus. Mais qu'il avait mes petits sabots quand il était tué. Ça c'est un souvenir qui m'a marqué. Et j'y pense, je le vois encore.
Il n'y a rien à faire, il est bien trop tard. Je n'aurai jamais le temps de déchiffrer Mozart. Et pourtant c'est si charmant, ces petites notes et ces accents. On croirait qu'on monte un escalier du sous-sol jusqu'au dernier grenier. Pom 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 babadom babadom. Il n'y a rien à faire, il est bien trop tard. Et pourtant voilà, c'est justement l'année Mozart. Et pourtant voilà, c'est justement l'année Mozart.
Thank you.
jamais le temps de déchiffrer Mozart. Et pourtant le temps s'envole et la vie court et c'est fini. Si Mozart avait connu Mickey, ils auraient bu beaucoup de whisky. Moi j'aurais conduit l'automobile, car je suis le seul qui a son permis. Il n'y a rien à faire, il est bien trop tard. Il n'y a que des guerres et des angoisses et des horreurs. C'est pourquoi je lève mon verre à la santé de Mozart.
Et puis, mon papa a recommencé, la parquetterie a recommencé, et il y avait beaucoup de fermiers qui avaient fait du marché noir et qui installaient du parquet chez eux. Donc, papa demandait pour avoir un sac de farine. Et le week-end, on mangeait du Savoie, des gosettes, des éclairs. Donc, encore une fois, pour moi, la guerre, c'était... Et papa allait en vélo, à vélo, chercher des betteraves dans les champs. Il revenait et il me faisait du sirop dans la machine à laver, avec les cuves en cuivre et du feu en dessous. Là. Il passait son temps, il me faisait du sirop. J'ai mangé du sirop il est longtemps, j'en mange encore maintenant. Hein. Parfois, je me dis, tiens, une tartine de sirop avec du lait froid. Ce sont des choses qui restent...
Du sirop de betterave, alors, c'est ça?
Non. De betterave, oui. Mais c'était très bon. Moi j'ai connu ce sirop-là. Pour moi, c'était du sirop. Il était bien rouge. Hein. Et puis, pour manger, ben, on mangeait comme tout le monde. On avait du pain gris. Mais pas le week-end. Et alors, maman faisait, c'était une spécialité bruxelloise, des knödels. C'était de la pâte à pain qu'on mettait dans l'eau bouillante par cuillerée, puis on mettait ça sur une assiette, on mettait un petit peu de beurre ou de margarine et de la cassonade, et voilà, ça calait l'estomac.
Et ça, c'était surtout grâce à la farine.
Ah oui, il y avait ça aussi.
Oui.
Et ce que je me rappelle, c'est que, mais ça, j'étais plus petite, et on allait glaner avec maman. Je ne sais plus de quel côté. Et je ne sais plus par quel moyen on y allait. Est-ce qu'on allait au bus ou je ne sais pas. On allait glaner. Ah oui, ce que je me rappelle aussi, c'est qu'on devait occulter le soir et on entendait les Allemands qui passaient et on entendait les bottes. C'est aussi un bruit que je retrouve dans les films, ce bruit de bottes. Et ils chantaient. Ils avaient de très belles chansons. Ils étaient très disciplinés. Et avant qu'on ne parte de chez Istas, c'était la débandade, maintenant que je me rappelle. Et il y a un Allemand qui est venu sonner quand on était chez Istas, qui avait deux grands bergers allemands, et qui a demandé à papa s'il pouvait les échanger contre le vélo de papa. Parce qu'ils s'en allaient tous, et papa a dit non. J'ai des choses comme ça qui m'ont frappé étant enfant... on avait des tickets et pour aller chercher le pain il fallait un ticket et maman m'envoyait, elle disait tu diras, j'étais chez Siparis à la rue Patenier, tu diras à monsieur Siparis que j'ai plus de tickets. Et je disais monsieur, maman n'a plus de tickets, et il me donnait mon pain, un pain cuit sur pierre, et il me disait file. Et en face de chez nous il y avait un marchand de charbon. Et maman pouvait aller remplir sa charbonnière. On appelait ça du schlam. C'était du charbon mouillé, comme ça. On mettait ça à la pelle. C'était vraiment le charbon de la guerre, quoi. Mais je trouve qu'il y avait une entraide. Je n'ai pas connu, moi, des gens qui se dénonçaient, etc. J'étais vraiment dans un quartier... protégé, tout le monde s'entraidait, on n'avait pas de ceci, ben on allait chercher chez le voisin. Et ça nous a appris les vraies valeurs de la vie, l'amitié, la solidarité, le respect des autres. Et je me dis maintenant que les jeunes, c'est une guerre le Covid. Ils ont été privés d'école. Mais pendant la guerre, les étudiants ont été privés d'université aussi pendant 4 ans. Et ils ont fait de la résistance. Même ceux qui étaient plus jeunes allaient porter des lettres et tout ça. Et c'est ça qu'on a plus maintenant. C'est de l'individualisme. Je sais pas. Et ils se plaignent de tout. Nous, on était tellement privés que quand on pouvait avoir quelque chose, premièrement, on n'achetait pas à crédit. On épargnait. Et quand on avait, on achetait et on en prenait soin. On gardait ça pendant des années. Maintenant, c'est tout de suite. Au fond, quand on y pense, c'était une plus belle période. Dans la rue, je sais encore dire le nom de tous les gens qui habitaient dans la rue. Ici, je ne sais pas dire le nom des gens qui habitent dans mon bâtiment.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale ?
La guerre, c'est quelque chose de ridicule. On envoie des jeunes se battre contre des gens qui ne connaissent pas. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les Américains qui sont venus se battre. Et j'ai eu la même impression au Vietnam aussi. Ils envoient leurs jeunes se faire tuer pour des choses qui n'intéressent pas les jeunes. Nous, on pouvait encore dire que c'était pour défendre la patrie. Mais maintenant, les guerres qui ont lieu maintenant, c'est pour de l'argent. C'est pour du pétrole, c'est pour des intérêts. Hitler aussi.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes ?
Le Covid, c'est une guerre contre un virus. Soyez patients, respectez les autres. Les jeunes, pendant la guerre, ont aussi eu 4 ans de privation de cours, de jeunesse, mais ils ont appris les vraies valeurs de la vie, la solidarité, l'amitié, la famille et le respect des autres. Maintenant, on n'est pas dans la peau des jeunes, on ne sait pas comment eux voient les choses. Nous, on voit les choses avec nos yeux à nous, et ce que nous, on a vécu, et on se dit, bon...
Et voilà donc pour le témoignage de Suzy Draps qui habitait rue Balthazar Florence à Salzine pendant la guerre, qui est née juste avant en 1939. On la remercie et la semaine prochaine, on s'en va direction Profondeville, parce que Profondeville, c'est là où je l'ai rencontrée il y a une quinzaine de jours. Mais au moment de la guerre, elle n'habitait pas à Profondeville. C'était Françoise Van Uffelen. C'est Françoise Van Uffelen qu'on va rencontrer la semaine prochaine. Et elle, au fait, elle habitait où elle habitait. Enfin, elle a changé plusieurs endroits pendant la guerre, mais de base, elle était au bazar de la station. Peut-être que vous vous rappelez ou vous avez déjà entendu parler de ce grand magasin qui se trouvait plus ou moins vis-à-vis de là où on a le CA aujourd'hui. Et donc c'est intéressant parce que c'est encore une autre manière de voir l'histoire, hein, parce que là on va être dans une famille de grands commerçants. Évidemment, c'est pas les mêmes difficultés, hein. Là, ici, c'est des gens qui avaient un peu plus d'argent, donc qui n'avaient pas forcément de difficultés pour manger, mais qui devaient, gérer leur commerce, gérer leurs employés, etc. Donc, c'est encore une manière très intéressante de découvrir et redécouvrir ce qui a pu se passer à Namur pendant la guerre. Je suis donc impatient d'être la semaine prochaine pour vous faire partager le témoignage de Françoise Van Uffelen. En attendant, tous les témoignages, vous pouvez également les retrouver sur notre site www.namuranguerre.be. Tous les podcasts sont là, donc vous pouvez retrouver toutes les émissions qui ont été diffusées donc depuis le mois de septembre de l'année dernière. Je pense qu'on est déjà on va être au total à presque une cinquantaine d'émissions. Pour le moment, on est déjà à plus ou moins 40. Donc tout ça est disponible sur le site www.namuranguerre.be. www.namuranguerre.be ou éventuellement sur le site d'RCF. Il suffit de s'inscrire et là, vous pouvez accéder aux archives. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité, et pour votre intérêt, pour vos messages de soutien pour ce programme de Namur quand c'était la guerre. Et je vous dis déjà à la semaine prochaine. Profitez bien de l'été, même si le temps n'est pas forcément de la partie. Allez, à bientôt.